après, le conflit social filmé par Lech Kowalski dans On va tout péter, diffusé hier soir, deuxième volet de notre grande table des idées, aujourd'hui avec le festival du documentaire d'Arte et autour du film Berlin Tempelhof, diffusé ce soir à 23h45. L'asile, une vie en transit, on en parle avec son réalisateur brésilien Karim Aynouz, en duplex de la RBB à Berlin. Bonjour à vous Karim Aynouz.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous, un peu loin, mais là. Et on en parle aussi avec notre deuxième invitée, la juriste Karine Parot, professeure à l'université Cergy-Pontoise, membre du GISTI, le groupe d'information et de soutien aux immigrés, qui publie à la Fabrique un essai politique, carte blanche, l'État contre les étrangers. Bonjour Karine Parot.
Bonjour.
Un aéroport devenu centre d'accueil d'urgence des demandeurs d'asile, c'est le Berlin Tempelhof, prouesse architecturale créée en 1923, transformée en camp de prisonniers sous le Troisième Reich, puis réactivée par les Alliés au lendemain de la guerre. Cet aéroport en plein Berlin a cessé de fonctionner en 2008, détrôné dans les années 70 déjà par le Tegel. Depuis 2010, les pistes et le terre-plein qui l'entourent sont devenus un parc public et le bâtiment classé fait office depuis 2015 de lieu d'accueil. C'est ce lieu, ce centre que vous avez choisi avec une unité de lieu pour tourner votre documentaire Karim Aynouz, ce Berlin Tempelhof. En 2015, c'est l'année où Angela Merkel ouvre grand les bras et les frontières allemandes aux réfugiés. Pour accueillir cette année-là plus d'un million de migrants, l'ancien aéroport a très vite été mis à contribution. Karim Aynouz.
Oui, en fait, c'était une décision qui a été prise dans l'urgence avec l'arrivée des gens qui échappaient de la guerre en Syrie plutôt, mais dans le Moyen-Orient. C'était pas un planning d'avoir des gens qui habiteraient dans un ancien aéroport, mais en fait, ça fonctionnait parce qu'il y avait beaucoup de monde qui sont arrivés, il n'y avait pas beaucoup de place pour les loger. Et pour moi, c'était une vraie surprise parce que c'est un des seuls abris des réfugiés qui sont vraiment dans les centres de la ville. Et la façon où les gens qui habitaient là-bas côtoyaient la ville, ça m'a beaucoup intéressé. C'est pour ça que, en fait, j'ai commencé à penser que c'était important d'enregistrer ce qui se passait dans cet espace.
C'est un lieu magnifique, il faut quand même le dire, Karim Aynouz. On sent toute l'histoire qui est passée aussi par là. C'est une architecture assez démesurée pour un aéroport qui a quand même été pensé pour rapprocher le trafic aérien du centre de la ville. Vous avez connu arpenter tous les recoins de cet aéroport?
Oui, en fait, moi, j'étais dans cet aéroport pour la première fois, je crois que c'était 2004. J'ai pris un vol Berlin-Bruxelles. Après 2010, enfin, après la fermeture de l'aéroport en 2008, en 2010, c'est devenu un parc. Et en fait, le documentaire, il a commencé avec... c'était plutôt un documentaire sur les parcs, parce que c'était un parc qui est devenu un parc public. Les pistes sont devenues un espace de loisirs pour les Berlinois. Et moi, j'ai commencé plus tôt. Je suis architecte de formation et j'étais très intéressé comment cet espace, que c'était un espace fait pour des avions, c'était devenu un espace pour les quartiers, pour les gens qui habitaient dans les quartiers. Et en 2015, avec l'ouverture des hangars, en fait, les hangars avant, ils étaient utilisés après la fermeture de l'aéroport pour des foires, pour des fêtes, pour beaucoup d'événements, en fait, c'est passé là-bas. Et c'est un espace assez impressionnant et c'est très impressionnant de penser que c'était un espace au départ pour faire des réparations pour des avions de guerre. Et comment cet espace, avec une échelle énorme, avec, je crois, 40 mètres de plafond, enfin, vraiment énorme, c'est devenu un espace d'abri pour des gens qui échappaient à la guerre. C'est ça qui m'a vraiment frappé quand j'ai commencé à passer un peu d'un documentaire qui parlait beaucoup de parcs pour un documentaire qui parlait de nouveaux arrivés en Allemagne.
Karine Parot, vous êtes juriste, vous avez accepté de jouer le jeu pour nous du regardeur, en spectatrice avertie quand même de ce documentaire. Quelles sont les images qui vous ont marqué dans ce film de Karim Aynouz, le Berlin Tempelhof?
Bon, d'abord, je voudrais dire que c'est extrêmement bien filmé. C'est vraiment, j'ai été époustouflée. C'est vraiment très très beau. Le cadrage auquel je suis assez sensible, c'est magnifique. Chaque plan est vraiment, on sent extrêmement bien pensé. Et c'est un très très beau film que moi j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est une image. Ce qui ressort pour moi du film, c'est plusieurs choses. C'est cette attente, parce que c'est un film assez languissant. Hein. Et ce que vous faites très bien ressortir, à mon sens, c'est l'attente de ces personnes qu'on parque dans ce qui ressemble quand même beaucoup à un camp humanitaire. On y reviendra peut-être.
C'est même l'attente hein, qui rythme les journées de ces occupants qui sont là en transit dans cet espace d'accueil, ce lieu d'accueil qui est devenu l'ancien aéroport. C'est à la fois l'attente et aussi l'espoir. Et le film est jalonné, je précise juste ça, il se situe sur 12 mois, jalonné par les mois qui passent, hein, pour notamment l'un des demandeurs d'asile qui est là et qui va devenir le personnage principal de votre documentaire. Pardon, je laisse Karine Parot finir de nous dire ses impressions.
L'attente et puis aussi de ces personnes, un peu l'ennui et quelque part, ça se perçoit quand même aussi dans le film, la grande nostalgie, l'angoisse aussi. À un moment donné, on lui demande, est-ce que tu suis ce qui se passe en Syrie? Il dit, ben oui, bien sûr que je suis, parce que mon statut en dépend, ma situation, mes droits vont en dépendre. Et donc, c'est aussi comme ça, cette roulette russe auquel les individus sont suspendus. Hein, et l'anti-héros du film, si je puis dire, le personnage que vous suivez principalement, finit par obtenir, bon, je ne veux pas dévoiler le film, mais bon, disons qu'il y a plusieurs... statut, hein. Il y a le rejet, donc c'est-à-dire que tu as le droit de repartir. Alors pas exactement depuis cet aéroport-là, puisqu'il est désaffecté, mais ça aurait pu être le cas, parce qu'à un moment donné, en Allemagne, il y a des sortes de zones d'attente. Dans certains aéroports, il y a des zones de confinement à partir desquelles les individus sont renvoyés directement vers leur pays, sans forcément avoir pu voir leur demande d'asile examinée correctement. Donc on voit aussi en filigrane les différents statuts. Hein, il y a une assistante juridique qui à un moment lui dit, ah mais normalement le statut normal, c'est la protection subsidiaire, donc c'est-à-dire la protection, si je puis dire, au rabais d'un an, hein, avec la difficulté de faire venir sa famille, et voilà. Donc,
C'est peut-être juste pour raconter, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, avec son hangar principal qui peut accueillir jusqu'à 7000 personnes, cet aéroport, Karine Parot, c'est une ville dans la ville, hein.
Oui, tout à fait. Ça fait penser un peu les images très frappantes pour moi des lumières qui s'allument dans le hangar, puisqu'en réalité des petits blocs ont été constitués dans le hangar. Ce qui est aussi très frappant, ce qui m'a frappé aussi beaucoup dans le film, c'est l'omniprésence des barrières. Eux sont entourés de barrières. Et le nombre de plans où au fond on voit des barrières, c'est quasiment tous les plans. Et en revanche, eux, dans leur chambre, ils n'ont pas la possibilité de mettre une porte qui se ferme. Alors, on leur explique que c'est pour des raisons de sécurité. C'est comme ça, cette espèce d'enfermement qui ne dit pas son, enfin, qui est là, mais qui ne dit pas vraiment son nom, parce qu'en réalité, on pourrait sauter les barrières, elles sont pas très hautes. Il y a des jeunes qui s'amusent, qui sont de l'autre côté de la barrière, qui s'amusent à le faire. Mais on voit quand même que ces gens, finalement, sont confinés dans un statut d'attente et d'ennui.
Karima Aynou, c'est vrai que visuellement, il y a quelque chose du playtime de Jacques Tati hein, dans ce lieu que vous avez pu filmer.
C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, c'était, quand je commençais à penser sur le film, en fait, tout au début, c'était très important qu'on puisse y rester pendant une année, comme en parti pris, parce que pour moi, le film, c'est que ça m'a beaucoup intéressé au moment où on a commencé à y penser, c'était qu'en fait, il avait beaucoup de documentaires, beaucoup de reportages sur la croisière, comment les gens partaient de la Syrie, enfin du Moyen-Orient pour arriver en Europe, surtout en 2015. Et ça m'a beaucoup frappé qu'il n'avait pas beaucoup de documentation sur comment les gens essayaient de rester, quoi. Comment c'était l'expérience d'être là en Europe et comment c'était l'expérience d'attendre pour pouvoir savoir s'ils pouvaient rester en Europe. Alors pour moi, c'était très important de parler de l'attente, comme vous avez bien remarqué. Et l'attente dans le temps, et aussi cette sensation, comme vous avez aussi bien dit, d'une roulette russe. Les gens savent pas s'ils vont pouvoir rester, s'ils vont pas pouvoir rester. Et là, c'est très troublant parce qu'en fait, comme j'avais dit avant, c'est un parc. Il a un parc à côté. Alors, ils sont vraiment aussi exposés à l'opposé de ceux qui sont en train de vivre. C'est les gens qui sont là pour les loisirs. C'est une énorme liberté urbaine. C'est quand même un espace assez utopique qu'on a de l'autre côté. Et pour moi, c'était très important de voir comment les choses se côtoyaient, comment ces deux choses se côtoyaient, parce qu'en fait, il avait pas de barrière, mais il avait de barrière. Alors, c'est-à-dire, c'est presque une barrière, des fois très visible, des fois très invisible, qui pour moi, ça me rappelait beaucoup. Moi, je suis brésilien d'origine, enfin, je suis algéro-brésilien, mais je suis plutôt brésilien parce que j'étais élevé au Brésil. Ça me rappelait beaucoup de ce qui se passe dans des grandes villes du tiers-monde et plutôt au Brésil, où les gens se côtoient, c'est des gens qui ont des vies et des attentes et des problèmes très très différents. Mais comment ces gens-là peuvent vivre ensemble? Alors c'était ça un peu aussi, ou pas en fait. Et c'était ça un peu ce qui m'a beaucoup motivé à commencer à faire un film sur cet abri-là, en opposé à d'autres abris qui sont, il en avait beaucoup en Allemagne entre 2015 et 2018.
Alors vous montrez ce contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Vous jouez à l'image de cette opposition dedans, dehors, et vous montrez cet espace avec ses frontières. Juste avec vous, Karim Agnous, comment s'organise la vie au quotidien de ces demandeurs d'asile, cette vie en transit, comment ça se passe? Parce qu'on a parlé de l'attente, mais comment est-ce que leur vie s'organise?
En fait, pour les enfants, ils peuvent sortir pour aller à l'école dehors, ils sont accompagnés par les parents normalement, mais la plupart des gens, ils ne peuvent pas travailler, il faut qu'ils attendent. La routine est celle que... Il mange 3 fois par jour. Enfin, il a le repas qui sont servis. Et je crois que les moments les plus importants du jour, c'est vers 17h quand ils reçoivent leur courrier. Et à chaque jour, ils attendent les courriers pour savoir comment leur demande d'asile a été prise, s'ils ont une réponse ou pas. Et c'est assez ironique parce qu'ils peuvent accéder les parcs. Comme ils travaillent pas, ils sont là dans l'attente, ils peuvent accéder à l'EHPAD, ils peuvent étudier allemand, enfin il a des cours d'allemand dans l'abri, mais ils n'osent pas vraiment passer des hangars au parc. Alors c'est quand même une vie très confinée. Évidemment, ils peuvent sortir de l'abri, ils peuvent rentrer dans la ville, vivre dans la ville, mais il faut rentrer tous les soirs pour y dormir. On peut pas inviter des gens pour entrer et il a vraiment un énorme contrôle entre la ville et l'abri. Il faut vraiment passer, comme vous avez aussi mentionné, par plusieurs barrières de sécurité. D'un côté, ça se comprend parce que c'est pour les protéger vraiment de quoi que ce soit par rapport à ce qu'il a avec une montée de l'extrême droite en Allemagne. C'est quand même délicat, mais en même temps, c'est une vie qui est une vie de prison, quoi, une vie de prison. Avec une sensation qu'on peut rentrer, on peut sortir, mais finalement, je crois que c'était pour tous ceux qui étaient là-bas, ils comptaient les jours qu'ils pourraient partir de l'aéroport pour aller vivre dans la ville.
Il y a aussi cette symbolique très particulière de l'aéroport que souligne l'un de vos interlocuteurs. On y atterrit, mais on y décolle aussi dans un aéroport, normalement. Pour les Français qui se souviennent des charters de Nicolas Sarkozy pour renvoyer les migrants dans leur pays d'origine, on comprend le trouble d'Ibrahim à son arrivée. C'est d'ailleurs à ces aéroports plus actifs, lieux d'arrivée et de départ, Karine Parot, que vous faites référence et vous vous intéressez dans Carte Blanche, votre essai, comme Roissy, et à ce que vous qualifiez aujourd'hui d'exercice aléatoire des droits accordés par la loi aux étrangers, c'est-à-dire des zones d'attente où les demandeurs d'asile sont sélectionnés par des administrateurs, des policiers, souvent sans avoir vu un juge, et qui sont un peu soumis au pouvoir discrétionnaire, là, des agents de la force publique.
Oui, alors, vous avez raison. La zone d'attente la plus grosse en France, c'est celle de Roissy, hein, qui doit accueillir, si j'ose dire, à peu près 10 000 personnes par an. Mais en même temps, 10 000 personnes, c'est pas grand-chose, parce que ce que ne montre pas du tout le film, mais qui est aussi une réalité très importante de la politique migratoire européenne, c'est l'impossibilité déjà de parvenir jusqu'au territoire. Donc ceux qui sont déjà en zone, qui arrivent jusqu'à la zone d'attente, c'est parmi les plus chanceux. Bon, il y a ceux, évidemment, qui sont contraints par la législation d'emprunter des voies illégales et pour une part de laisser leur vie ou leur santé dans les périples. Mais les zones d'attente, c'est un peu comme les centres de rétention, parce qu'en réalité, en France, il y a deux régimes juridiques différents entre les zones d'attente et les centres de rétention administrative, mais c'est un peu la même chose, hein, c'est pas bien différent. Et c'est l'idée d'enfermer les gens. Alors, dans les zones d'attente, c'est de les récupérer juste au moment où ils arrivent pour essayer, dans la mesure du possible, de s'en débarrasser et de les réexpédier. Seulement, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Comme on veut essayer, l'État français, l'État allemand, les États européens, d'une manière générale, veulent essayer de garder les dehors de la légalité. Hein. Dans le journal tout à l'heure, vous parliez du Conseil de l'Europe. La Russie ne respecte pas toutes les consignes du Conseil de l'Europe. Je peux vous dire que la France, l'Allemagne, non plus. Et quand la France renvoie une personne, un exilé qui est arrivé en zone d'attente sans véritablement enregistrer sa demande d'asile vers un pays où il risque ou elle risque des traitements inhumains et dégradant, évidemment, elle viole à la fois la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, mais aussi la Convention européenne des droits de l'homme signé après la guerre. Donc oui, pour vous dire où on en est arrivé dans la zone d'attente, ça aussi c'est frappant, on a installé une juridiction ad hoc spéciale, hein, dans une sorte d'Algeco. C'est une annexe du tribunal de Bobigny, où les juges statuent. Alors pour l'instant, ils statuent encore in personam, c'est-à-dire physiquement, mais bientôt ce sera sur des écrans vidéo. Donc les étrangers sont conduits de la zone d'attente au bout de quelques jours, ceux qui ne sont pas renvoyés directement sans avoir pu voir un juge, eh bien... passe dans un espèce d'Algeco où il y a évidemment personne, aucun public, parce que qui est-ce qui va aller sur le tarmac, enfin au milieu comme ça de l'aéroport, personne. Donc c'est des juges qui voient toute la journée passer les étrangers en tête à tête sur des contentieux qui sont toujours les mêmes. Et bon, voilà, donc c'est pour vous dire à quel point et de quelle manière on garde les dehors de la légalité, puisque nous sommes dans un état de droit et que normalement un enfermement, quand on enferme quelqu'un, il faut au bout d'un certain temps le présenter à une autorité judiciaire. Mais pour contourner ça, on fait des sortes de mascarades de justice, comme on fait aussi des sortes de mascarades d'examen de demande d'asile. Dans le film, l'Ukrainien à la fin, et on lui dit « Ah oui, alors il faut vraiment que tu te dépêches parce que demain, t'as ton entretien. Il faut pas que tu rates le bus de 7h du matin parce que tu as un entretien qui va être décisif pour toi. » Il faut savoir que ce genre d'entretien, il est absolument décisif pour sa demande d'asile. Évidemment, on voit qu'il a pas eu le temps de le préparer. Et je termine par là. Juste s'il a un discours trop cohérent, s'il explique bien précisément ce qui lui est arrivé, on va lui dire « Oh là là, ça c'est un récit que vous avez acheté à un vendeur de récits. » Voilà. Mmh. Et s'il est hésitant, balbutiant, on va lui dire « Ouh là là, ça, c'est... il ment, hein, parce que si elle lui était vraiment arrivée, eh ben, il serait un petit peu plus sûr de lui. » Donc, c'est aussi, là aussi, on fait semblant de respecter la Convention de Genève. En réalité, c'est des sortes de quotas qui ne disent pas leur nom et qui sont mis en place de différentes manières, juridiques, mais aussi via l'hébergement, hein, insuffisant. Voilà, c'est...
On va revenir sur ce que sont les critères aujourd'hui, ce qu'ils étaient d'ailleurs aussi en 2015, au moment où l'Allemagne, Berlin, à travers sa chancelière, accueille de manière plus importante qu'habituellement, et surtout ailleurs en Europe, un certain nombre de migrants venus sur le sol européen. Peut-être on peut y entrer par la figure de cet étudiant syrien que vous avez rencontré, Karim Aynouz, et qui est le fil conducteur de votre documentaire « Berlin Tempelhof ». Extrait.
اسمي ابراهيم الحسين من سوريا عمري 18 سنه غرفتي كانت بالطابق الثاني كنت كل يوم فيق على صوت اغاني فيروز على ريحه القهوه اللي تعملها امي كل يوم الصبح بفتقد كل الاشياء هناك كثير بحاول انه ضل اتذكرها دائما غرفتي هلأ مسكرة مثل ما تركتها آخر مرة.
Voilà, il se présente devant votre caméra, Karim Aynouz. Lui, c'est Ibrahim. Il vient de Syrie, il a 18 ans. Et là, il se souvient de sa chambre au deuxième étage dans ce village du nord de la Syrie où il habitait, où il se réveillait avec les chansons de Fayrouz et l'odeur du café que sa mère avait préparé, que beaucoup de choses lui manquent. Voilà ce qu'il vous dit et qu'il essaye de se souvenir de tout. Maintenant, sa chambre est fermée. Elle est restée telle que je l'ai quittée. Comment est-il arrivé là? Est-ce que vous avez compris son parcours? Parce qu'il est venu seul aussi, hein, Karim Aynouz, sans sa famille qui est restée en Syrie.
Oui, en fait, Ibrahim, il a échappé à la Syrie à l'âge de 17 ans. C'était le mois de octobre, novembre de 2015. C'était quelqu'un qui était dans une situation de danger par rapport à ce qui se passait au nord de la Syrie. Il vient des monts belges. Et il est arrivé tout seul en Allemagne. Il avait des sœurs et des frères qui sont restés en Syrie. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à Ibrahim parce que pour moi, c'était plutôt les personnages comme Ibrahim qui étaient un peu en train d'être vilanisés ou démonisés par les médias européens. C'était des jeunes garçons célibataires qui échappaient à la guerre pour commencer peut-être une nouvelle vie. Et ça m'a beaucoup intéressé la façon dont c'est un garçon quand j'ai rencontré. Il avait 18 ans, je l'ai quitté, on est très proche et très en contact. Mais pendant les films, je trouvais que c'était quelqu'un qui avait... peut-être vieilli 10 ans dans une année. C'était quelqu'un qui avait vraiment devenu très 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 mûr depuis qu'il était arrivé. Et aussi c'était quelqu'un qui était très très critique des conditions dont il était dont il vivait d'un abri, mais aussi était quelqu'un de très positif, qui voudrait vraiment recommencer sa vie, enfin pas recommencer, mais dans son cas commencer sa vie dans un autre pays avec des conditions qui n'étaient pas évidentes. Il faut aussi le dire que moi j'avais suivi à peu près 6 personnages pendant l'année qu'on a filmé. Alors il avait Ibrahim et il avait aussi un autre personnage qui a 36 ans à l'époque qu'on a filmé, qui était un médecin irakien, enfin qui a échappé aussi la guerre en Irak pour recommencer sa vie. Alors c'est-à-dire que les films, il est vraiment axé sur des personnages masculins.
Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que sur la Ibrahim, fin du film, il attend encore aussi.
Il a resté
cette réponse de statut.
Enfin, les deux personnages. Oui, Ibrahim, le jeune personnage, il est là. Il travaille dans un cinéma à Berlin. Il est gérant d'un cinéma, d'un complexe de cinéma.
Le montre. Un an après, sa patience va payer. Il va obtenir un statut de réfugié pour 3 ans et demi. Il dit que c'est mieux que la protection subsidiaire. Ça, c'est ce qu'il dit à sa mère par téléphone qui est restée en Syrie. Ça, c'est pour Ibrahim qui travaille aujourd'hui dans un cinéma à Berlin.
Et Koutaïba, il est marié, il a eu un enfant l'année dernière et il travaille dans une... il est un peu en transition, là, il travaille dans une société de vente internet parce qu'il n'arrive pas... Enfin, l'allemand, c'est une langue qui est très difficile pour lui à cause de son âge, à cause de son parcours, même s'il parle russe, arabe, anglais. Et son rêve, c'est de rentrer dans le domaine de la santé, même si c'est pas dans un hôpital, mais si c'est pas comme médecin, mais dans un hôpital, qu'il puisse travailler. Alors c'est vraiment des défis très différents de quelqu'un qui a 18 ans, qui est arrivé à 18 ans, et une autre personne qui est arrivée à la fin de sa trentaine. Alors c'est pour ça que je choisis aussi de montrer ces deux personnages-là pour un peu parler de... Parce que pour moi, c'est que c'était intéressant, c'était évidemment... Enfin, c'est important de parler de la traversée, de comment les gens sont arrivés. Mais pour moi, ça m'intéresse beaucoup de parler comment les gens peuvent vivre ensemble dans ces pays, enfin, surtout l'Allemagne. Et c'est important de parler comment ils sont maintenant. Pour moi, c'est aussi un projet que je fais c'est un film qui a été fait entre 2016 et 2017. Mais moi, ma vraie envie, c'est de continuer à suivre ces personnages pour qu'on puisse un peu suivre comment ces gens qui sont arrivés en 2015 avec l'ouverture de Merkel et d'autres raisons, comment ils sont en train de gérer leur vie dans ces continents, dans ces pays, dans les conditions qui ont beaucoup changé entre 2015 et maintenant au point de vue politique.
Sur la question des critères d'attribution, est-ce que vous voyez, vous, Karine Parot, à peu près comment va être attribué un statut plutôt qu'un autre si on prend entre ces 2, 3, 4 personnages principaux présents dans le film de Karim Aynouz? Est-ce que vous voyez une logique?
Une logique, non. Ce qui est sûr, c'est que les critères de la Convention de Genève de 1951 sont trop restrictifs et très flous. Grosso modo, pour schématiser, c'est un peu le réfugié politique, la personne qui est persécutée, soit pour ses opinions politiques, pour sa religion, son appartenance à un groupe ethnique, en gros. Hein, mais c'est toujours pris individuellement. Mais stricto sensu, les gens qui fuient la guerre en Syrie, le conflit en Syrie, ne relèvent pas de la Convention de Genève. Et c'est pour ça qu'on leur attribue souvent en France la protection subsidiaire, qui est un statut beaucoup moins protecteur parce qu'elle est beaucoup moins longue. Là, je vois qu'en Allemagne, le statut de réfugié est de 3 ans et demi. On pourrait penser que c'est le Graal. Mais quand vous avez un permis de séjour uniquement de 3 ans et demi, dont vous ne savez pas s'il va être renouvelé, je ne sais pas en réalité quel est le statut de ce droit en Allemagne, je ne sais pas s'il y a un renouvellement automatique, mais si ça n'est pas le cas, comment vous voulez vraiment vous installer, pour ne pas parler d'intégration, mais comment vous voulez vous installer dans un pays si on vous dit qu'au bout de 3 ans et demi, bah, peut-être il va falloir repartir, ce qui peut être d'ailleurs le souhait des gens, j'en sais rien, pas de Ibrahim manifestement, mais bon, un an c'est encore pire. On vous donne le droit de vivre un an et éventuellement de travailler, mais sans faire par exemple venir votre famille, autant vous dire qu'on vous place encore et toujours dans cette situation d'attente interminable. Et en réalité, la question de la lettre des critères n'est à mon avis pas celle qui est décisive, parce que au moment du choix d'attribution, il y a un tel arbitraire. Encore une fois, il faut essayer de se représenter ce que c'est que la réalité d'un entretien par un officier de protection, le mal nommé officier de protection des réfugiés et des apatrides, quand vous n'avez comme preuve que votre propre récit, vous devez, comme on dit, emporter l'intime conviction de l'officier. Alors, bonne chance. Donc, ça va dépendre de la façon dont il est luné ou pas, parce que les dossiers sont, évidemment, il y en a énormément, comparé au nombre d'officiers qui sont nommés, donc ils sont surchargés, ils ont très peu de temps pour les examiner, et donc, c'est évidemment au petit bonheur la chance pour une très large partie des dossiers.
Vous disiez tout à l'heure, Carrie Magnus, vous vouliez montrer ou développer aussi un autre récit, notamment autour de cette figure du réfugié syrien qui a beaucoup été diabolisé. Il faut rappeler que quand vous tournez, vous, en 2017, il y a eu déjà, après cette ouverture de la chancelière, la nuit du Nouvel An à Cologne, qui a aussi beaucoup stigmatisé ces migrants musulmans à ce moment-là, avec cette vague d'agression qui a pu y avoir et qui a aussi un peu rétréci ce sentiment chez les Allemands à ce moment-là, puis des attentats entre 2017 et 2018 sur le sol allemand. Est-ce que vous diriez néanmoins qu'aujourd'hui, et on le voit dans votre film, le civisme dans cet élan des travailleurs sociaux et des bénévoles à Tempelhof, l'aéroport, du professeur d'allemand jusqu'aux infirmières qui s'occupent des demandeurs d'asile, nous, en France, on a la jungle de Calais. En Allemagne, ils ont eu Tempelhof. Est-ce que vous avez le sentiment que les migrants ont été mieux traités dans ces années-là, 2015-2016, en Allemagne qu'en France?
Alors, je ne peux pas beaucoup parler de cela, parce qu'enfin, à part Calais et certains quartiers de Paris, moi, mon impression par rapport à la France, ça reste là, mais même si ça reste là, pour moi, c'est très différent de ce qui s'est passé en Allemagne, au moins dans les abris que je connais à Berlin. C'est pas dire que, parce que, par exemple, je crois pas que c'est correct de loger les gens dans une situation, même si c'est un aéroport avec un toit, c'est vraiment des conditions pas très humaines. Alors, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire que ici c'est beaucoup mieux qu'en France, mais moi ici, je crois qu'il avait une volonté d'engagement, et ça a beaucoup à voir avec l'histoire de l'Allemagne aussi, et aussi à Tempelhof, ça devient beaucoup plus évident, parce que c'est quand même un bâtiment qui a été fait ou qui a été beaucoup utilisé pendant les Troisième Reich. Alors, je crois que c'est une dynamique qui est très différente. C'est aussi une dynamique aussi en France qui est beaucoup tant par le colonialisme. Moi, comme Algérien aussi, c'est une dynamique qui est complètement différente de ce qui se passe en Allemagne à cause de l'histoire coloniale. Bon, à part tout cela, je crois que la façon dont ces deux pays ils ont traité les gens qui étaient en train de fuir la guerre en 2015-2016 était très 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 différente. Mais pas pour les dire que c'était incroyable ici en Allemagne. Par exemple, moi, pendant que je tournais les films en 2016, il y a eu un attentat dans un marché de Noël à Berlin. Et une des raisons que j'ai insisté vraiment de rester avec les personnages d'Ibrahim, c'est qu'en fait, il avait un cas d'un garçon qui était à côté de l'attentat, de Ludulier, qui l'attentat s'est passé. Et il a été mis en prison parce qu'il était en train de courir pour prendre le métro. Et c'était un garçon qui était à Tempelhof. Et moi, je me disais, mais c'est impossible que ces garçons-là soient des garçons qui a commis l'attentat. Et en fait, c'était pas lui. C'était un cas très classique de racial profiling qui se passe un peu partout et c'est horrible. Et en fait, c'est comme ça que j'ai insisté que c'était important, et même après les événements qui sont passés à Cologne, de vraiment rester avec un personnage qui soit un jeune garçon arabe. Et tristement, pendant la nouvelle année de 2017 à 2018, moi, je suis allé à Tempelhof pour tourner et je les ai pas prévenus que j'y allais, enfin les personnages avec qui on était très proches. Et pour ma surprise, ils étaient tous là-bas. Et en fait, ils étaient là-bas parce qu'ils étaient, ils avaient de la peur des sorties à cause des événements de 2016. Alors, c'est-à-dire que, oui, les conditions sont peut-être différentes. C'est évidemment qu'elles sont très différentes de Calais, que c'est vraiment une honte humaine. Mais, c'est un corps de camp. Et il faut réfléchir. Comment on peut continuer comme ça? C'est pas possible.
Comment l'Europe réfléchit aujourd'hui à ces questions-là? Je vous propose, et je vous donne la parole tout de suite après, Karine Parot, d'écouter les mots du président Emmanuel Macron en avril dernier, au moment du nouvel acte de sa politique générale et notamment migratoire d'asile. Voilà ce qu'il disait en conférence de presse.
Enfin, une nation, elle se tient aussi par ses limites et ses frontières. Je crois très profondément dans un patriotisme ouvert, dans une France qui rayonne à l'international, qui est conquérante. Mais pour être ouvert, il faut avoir des limites. Pour accueillir, il faut avoir une maison. Donc il faut des frontières. Il faut qu'elles soient respectées, il faut des règles. Et aujourd'hui, force est de constater que les choses ne tiennent pas comme elles devraient. D'abord, au niveau européen, nous avons décidé d'avoir des frontières communes, ces fameux espaces Schengen, avec les règles des accords de Dublin. Cela ne marche plus. Et pour moi, c'est le deuxième grand combat européen avec le climat. C'est le combat en matière de migration. Nous devons profondément refonder notre politique de développement et notre politique migratoire. L'Europe à laquelle je crois, l'Europe souveraine, forte, c'est une Europe qui repense une ambition de coopération, de développement à l'égard de l'Afrique et de toutes celles et ceux qui en ont besoin pour éviter les migrations subies. Mais c'est aussi une Europe qui tient ses frontières, qui les protège. C'est une Europe qui a un droit d'asile refondé et commun et où la responsabilité va avec la solidarité. C'est sur ces bases qu'on doit refonder Schengen.
Voilà, alors l'Allemagne a un temps suspendu aussi la réglementation de Dublin. Karine Parot, elle a à un moment fait bande à part, et notamment en 2015, par rapport à ses voisins européens sur sa politique migratoire. Peu après, 2016 jusqu'à 2018, l'étau s'est quand même resserré sur cette question. La chancelière a mis fin à sa politique d'ouverture. De nouveaux critères ont été établis. Et en 2018, l'Allemagne a bloqué dans ses camps de transit des migrants ayant déjà entamé des démarches pour sauver aussi sa coalition. En entendant ces mots d'Emmanuel Macron, est-ce que vous diriez que maintenant il y a un consensus entre la France, l'Allemagne et les autres pays européens sur cette question ?
Oui, il y a un consensus. Il y a toujours le même consensus, celui qui existe malheureusement depuis le début des années 2000, c'est-à-dire de fermer les frontières. C'est une politique de non-accueil, d'une volonté de non-accueil des personnes. Alors comme on peut pas violer ouvertement les quelques textes qu'on a signés après la Deuxième Guerre mondiale, on fait bonne figure et on en accueille quelques-uns, et éventuellement un petit peu plus. La guerre en Syrie nous a un petit peu mis du sable dans le discours des dirigeants européens qui disaient: vous comprenez, on peut pas accueillir les migrants économiques, mais seulement les vrais réfugiés qui répondent aux critères de la Convention de Genève. Sauf que les Syriens, on pouvait pas les disqualifier a priori, puisque manifestement ils fuyaient la guerre et que l'opinion publique voyait très bien que c'était des gens qui avaient besoin de protection. Donc pour continuer exactement dans la même voie, celle de la fermeture face aux Syriens, ils ont un petit peu modifié leur discours et adopté justement cette théorie de la crise des réfugiés, qui en réalité est une crise de l'accueil, du nom d'un ouvrage collectif qui fait assez bien le point sur la question. Mais la politique de Merkel, elle n'a été qu'une parenthèse. Alors, certains diront que c'est parce que l'Allemagne avait besoin de main-d'œuvre. D'ailleurs, cette culture de l'accueil en Allemagne, cette idée, même le terme de la culture de l'accueil a des racines économiques. À un moment donné, les chefs d'entreprise, le patronat l'a utilisé. Bref, ça a été une parenthèse et très rapidement s'est refermée. Comme vous le dites, très rapidement, l'Allemagne a refermé ses frontières avec l'Autriche. Et puis, ces mesures d'accueil, puisqu'effectivement l'Allemagne a accueilli à peu près 1 million d'exilés, mais accueilli, alors il y a des demandes d'asile qui sont en cours, hein. Toutes les demandes ne sont pas acceptées, bien sûr, hein. J'ai regardé, les derniers chiffres que j'ai, c'est pour 2017, 60% des demandes d'asile en Allemagne sont refusées. Bon, voilà. Donc 1 million d'exilés, ça ne veut pas dire 1 million de personnes qui obtiennent le statut de réfugié.
Karim Aynouz, un mot de conclusion, parce qu'à la fin de votre documentaire, alors que Ibrahim quitte Tempelhof, arrive un jeune Ukrainien qu'évoquait tout à l'heure Karine Parot, lui aussi marqué par la guerre, et on voit que l'histoire continue dans un éternel recommencement. Le film n'est pas terminé.
Non, pour moi c'était très important. Enfin, le film, il suit deux personnages, mais il y a un des personnages qui c'est Ibrahim qui arrive à voir un visa de 3 ans, mais pour moi c'était très important de pas finir le film là. Le problème, il est loin d'être réglé, comme Karine vient de dire en fait. Et pour moi c'était très important qu'on puisse comprendre que ça continue. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il y a des gens qui sont en train, et pas simplement à cause de la guerre, au point de vue économique, peu importe. Et pour moi c'était très important de pas boucler les films avec une sensation d'espoir. Enfin, on n'est pas là, on est très loin de là. Et c'était très important aussi de finir les films pas avec un Syrien, mais avec quelqu'un qui vient de l'Ukraine, qui est juste à côté.
Voilà, une autre histoire, mais toujours.
Faut qu'on fasse attention.
Ouais, la même histoire. Merci beaucoup à vous, Karine Parot. Carte blanche, l'État contre les étrangers. Votre essai vient de paraître à la Fabrique. Le festival du documentaire d'Arte, c'est 5 jours de documentaire en deuxième partie de soirée. Ouverture dimanche avec Je ne suis pas votre nègre de Raoul Peck, suivi lundi de On va tout péter de Lech Kowalski sur la lutte des GMS de la Creuse pour sauver leur usine et leur emploi dont on vous parlait hier. En écho aussi au dernier film documentaire de Riti Pan, Les tombeaux sans nom, qui sera diffusé ce jeudi à 23h et dont le cinéaste franco-comodien était venu nous parler le 21 janvier dernier, à réécouter sur le fil de vos podcasts de La Granta. Merci Karim Aynouz et merci aussi à nos confrères de la RBB à Berlin qui vous ont accueillis dans leur studio. Je rappelle donc que votre film Berlin Tempelhof sera diffusé ce soir sur Arte. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table.